Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà. Tu ouvres pour nous des voies merveilleuses, et parfois je me demande pourquoi. Alors je voudrais ouvrir une voie par excellence à travers la méditation d'un texte, et un sujet qui nous concerne tous. Nous avons tous éprouvé un sentiment particulier qui n'est pas toujours très agréable, mais à ce ressenti, eh bien, Dieu nous offre finalement d'ouvrir des voies merveilleuses. Ce sentiment, nous allons le partager ensemble et lui mettre des mots dessus, mais pas nos mots à nous, les mots de la Bible, les mots de l'Évangile. Et vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de la solitude. Ouais. Vous savez que nous vivons dans un monde où les gens n'ont jamais été aussi seuls, où ils éprouvent un véritable désastre. Alors on peut habiter dans des métropoles ou des mondes où il y a énormément de gens qui se pressent autour de nous, mais on s'aperçoit qu'il y a un véritable problème. Alors, tous les psychologues en parlent, mais aussi la Bible en parle, et elle donne des solutions. Alors nous allons faire en quelque sorte un message de mémoire. Et pour cela, pour entretenir notre réflexion ou la développer, je voudrais vous parler des solitudes de Christ, solitude de Jésus. Ça vous donne peut-être déjà quelques idées, parce que vous êtes des biblistes et vous connaissez bien votre Bible. Alors, ça peut nous aider, parce que on va comprendre que par là où il est passé, nous passons, et qu'aujourd'hui, si nous devons passer par là, nous ne passons pas tout seuls. Il y a quelqu'un. Forcément. À plusieurs reprises, j'ai déjà apporté des méditations sur le propos, des titres que nous avions partagés ensemble, prison de solitude, le solitaire, enfin toutes sortes de choses. Et ça revient très souvent d'ailleurs, hein, parce que Dieu nous fait la promesse de sa présence. Alors il y a une raison, naturellement. Ceux qu'ont été les souffrances de Christ, liées au rejet, liées à la solitude, liée à l'abandon, mais qui ont été annoncés prophétiquement par les hommes de l'Ancienne Alliance, et notamment par Jérémie qui nous dit ceci, et simplement pour mémoire, je lis simplement, parce que ça va être tout simplement là une introduction. Dans Jérémie, écoutez bien cette parole, vous la connaissez parce que elle est bonne cette parole, et voilà ce qu'il nous est simplement rappelé. Dans Lamentation, hein, c'est Jérémie Lamentation. Il nous dit simplement ce texte. Voilà. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière. Mais écoutez la suite. Sans perdre toute espérance. Voilà la condition des hommes. C'est un vécu, c'est une expérience, c'est un ressenti, c'est une souffrance, une douleur. Qui quelquefois, eh bien, peut être la cause de nos propres erreurs. On se retrouve seul, ça arrive. Et puis il y a parfois des situations où nous sommes plongés dans la solitude et nous y sommes pour rien. Nous en sommes que les victimes. C'est un état que nous n'avons pas choisi. Mais c'est comme ça. Alors il se tiendra seul et solitaire, mais sans perdre toute espérance. Et c'est là justement ce qui est important de retenir. Vous dire que la solitude a été de tout temps un phénomène humain douloureux, qui fait que c'est ressenti souvent cruellement, et je ne voudrais pas penser qu'il n'y a que les gens autour de nous qui connaissent ce genre de choses, mais dans l'Église, dans la communauté des chrétiens, parmi les enfants de Dieu, eh bien, il peut y avoir aussi cela. Et quelquefois, c'est ressenti d'une manière très forte, hein, parce que il y a quelque chose qui manque. Hein. Il y a une absence. Ouais, une absence. On ne saurait peut-être pas trop la définir, mais elle est au fond de nous-mêmes et elle est tellement nébuleuse, elle est tellement insaisissable, et pourtant elle est là. Et on saurait quelquefois l'expliquer. Il y a un proverbe qui nous dit ceci, proverbe populaire, qui nous dit que la solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps. Alors, si vous faites un régime, vous savez de quoi je parlais. Hein? Mais c'est à l'esprit, la solitude. C'est comme, bien, lorsque on met quelqu'un en difficulté, on va l'affamer. Et ça, c'est notre âme, c'est notre esprit qui est dans cet état. La faim, un assèchement, on pourrait peut-être présenter comme cela. Néanmoins, nous avons lu il y a un instant, il est question de solitaire et de silencieux, sans perdre toute espérance. Il y a des gens qui parviennent au désespoir et qui mettent fin ou qui mettent un terme à leur existence. C'est terrible. Je crois que c'est la chose la plus dramatique qui soit. Et souvent, ces gens le font parce que la solitude est là, parce que ils savent que, ou ils pensent, ou ils imaginent qu'ils sont plus tout seuls sur la terre. Alors, c'est le désespoir, c'est le mot, c'est le désespoir. Sans perdre toute espérance. Cette lueur d'espoir qui nous est signalée dans ces lamentations de Jérémie, cette lueur vitale, finalement, que ranime en nous la foi. C'est pourquoi il y a le mot espérance. Que ranime en nous la foi en celui qui a connu, en celui qui a vécu, qui a supporté et qui en a triomphé. Parce que nous ne marchons pas seuls et il nous a montré l'exemple de cette victoire. Alors, parlons-en des émotions, des ressentis, de ces douleurs qui nous font traverser le désert, de toutes ces solitudes humaines, pour nous dire, et c'est le texte que je voudrais eh bien mettre devant vous ce matin, parce que ça va être le texte de référence, ouvrez dans vos Bibles, et puis nous allons lire dans Jean, chapitre 14, et versets 16 à 18, et vous allez voir que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce que j'ai dit jusqu'alors n'est qu'une introduction, mais nous allons voir de quoi il est question. Alors, je rappelle donc Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Jésus s'adresse à ses disciples et à nous. Il dit « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur ». Le mot est tout à fait approprié dans le sujet. Afin qu'il demeure, il reste, il se tienne, il soit dans la proximité. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, et ça s'adresse naturellement, eh bien, en particulier pour chacun. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous, double force, avec vous et en vous. Et Jésus d'ajouter ce qui va nous interpeller maintenant, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Voilà, alors vous connaissez, vous l'avez lu et relu hein, naturellement ce passage. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je crois que c'est une terrible condition hein, que d'être orphelin. C'est terrible. Après les guerres, il y a beaucoup d'orphelins. Et puis dans la vie, au quotidien, il y a aussi des orphelins pour une raison ou pour une autre. Et si la Bible parle justement de cet état, c'est parce que, eh bien, Dieu a déclaré déjà dans les temps immémoriaux et par la bouche de ces grands hommes de foi qu'il était le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Voilà. Dans probablement eh bien le fonctionnement de nos sociétés, il y a aussi une place pour l'orphelin, en tous les cas un soutien, en tous les cas un accompagnement pour ne pas les laisser livrer à eux-mêmes. Alors c'est bien que la société prenne soin des orphelins, mais il y a un père adoptif, il y a quelqu'un qui lui eh bien veille encore une autre manière sur nous. Et Jésus donc prend cette notion. C'est le besoin de sa présence, nous le chantons fréquemment. C'est cette fin de relation, de communication qui rassure, avoir quelqu'un en qui nous avons confiance, quelqu'un qui est à l'origine de tout. Et de savoir qu'il est à nos côtés, vous savez, ça change tout. Et ça va même changer la nature de notre foi. Selon ce que nous croyons, et selon la position que nous prenons, est-ce que je suis un chrétien positionné dans la loi, ou est-ce que je suis un chrétien positionné dans la foi? Et notre regard sur le Père, notre regard sur Dieu, sur celui qui a fait les promesses, va être complètement différent. Et il y aura d'un côté peut-être, c'est vrai, cette présence, mais une présence quelquefois qui fait peur, qui ne nous rassure pas toujours en raison, non pas de ce qu'il est parce qu'il est parfait, mais en raison de nos infirmités, en raison de nos faiblesses, et en raison de ce que nous ne sommes jamais assez bien pour lui plaire. C'est ce que nous pensons. Lui, il nous a choisis, donc pas de problème, hein, il sait comment faire avec nous. Ou alors dans la foi en disant, Seigneur, eh bien je m'abandonne entre tes mains et je sais que je peux venir à chaque instant, à tout moment, et que tu es mon Père. Je ne suis pas orphelin. Tu es là, Seigneur, et je le crois profondément. Je vais vous donner encore un autre proverbe. J'aime bien les proverbes. Il y en a dans la Bible, mais je regarde aussi ailleurs. Ça m'arrive. Celui-ci dit, celui qui n'est pas nourri à la table de son Père n'est jamais rassasié. Oui. Celui qui n'est pas nourri à la table de son Père n'est jamais rassasié. Bénissons Dieu de ce que nous pouvons ou de ce que nous avons eu des parents, un père et une mère. Et ça ne sera jamais parfait, parce qu'on n'est que des hommes. Mais néanmoins, c'est déjà quelque chose par rapport à tous ceux qui n'ont rien du tout. Et c'est vrai que lorsque nous sommes, à l'instar de David, à connaître qu'il nous a dressé pour nous une table et que la coupe déborde, alors à ce moment-là, nous pouvons dire que Seigneur, mais tu me rassasies pleinement. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin et tu combles mon contentement. Orphelin, je viendrai à vous. Les souffrances de Christ, et j'y viens, ont été multiples. Si vous parcourez, eh bien, les pages de l'Évangile. Mais d'une des plus insupportables, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, qu'il a dû affronter, a été probablement l'abandon. Ouais. L'abandon, c'est-à-dire, tout simplement, cette souffrance connue sous le nom de solitude. Alors, on va voir. Le drame de la solitude est de tous les temps. Ça a toujours existé. Certainement depuis le Jardin d'Éden. Probablement. Mais il n'en reste pas moins que, il n'en reste pas moins vrai que c'est le problème numéro un de tous les hommes. Et si nous pouvions questionner, et certainement nos contemporains, nos concitoyens, eh bien, il y aurait certainement beaucoup de choses, finalement, eh bien, là, à dire et à entendre. La prophétie biblique projette un rayon sur ce que sont ou ce que sera les souffrances du Sauveur du monde, et notamment son abandon des hommes et le rejet des hommes. Écoutez, 800 ans auparavant, la venue du Messie, vous connaissez ce passage, Esaïe fait entendre à Israël, méprisé et abandonné, des hommes semblables à celui dont on détourne le regard, nous avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Et Jérémie ajoutera, je m'adresse à vous, en prenant les paroles prophétiques, prophétiquement parlant de Christ, je m'adresse à vous tous qui passez ici, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Et je crois que Jésus, par-delà ses souffrances physiques indicibles, par-delà ses souffrances morales, Gethsémané, par-delà tout ce qu'il pouvait y avoir à ce moment-là que l'on appelle la passion, eh bien je crois que véritablement il y avait au cœur de tout cela, eh bien l'abandon. L'abandon, et puis ce sentiment finalement d'être profondément seul. Voyez s'il est pareil souffrance. Et je crois que, après avoir entendu tant de gens, tant de confessions, il y a vraiment une grande souffrance, et parfois même parmi les enfants de Dieu. Et ça, c'est peut-être un problème dont nous avons du mal à parler, dire sa solitude. Je reçois des mails de temps en temps, je reçois des appels téléphoniques, et je perçois qu'il y a souvent derrière cela, eh bien, des cris et des pleurs. Je suis seul. Et on est très pudique, hein, dans la matière. On est très pudique. Eh bien, sachez que Voyez s'il est une souffrance semblable à ma souffrance, disait le prophète en parlant de Jésus. Une douleur semblable à ma douleur. Alors qui peut comprendre la solitude? Peut-être celui qui est passé. Mais faut-il qu'il y soit passé, mais qu'il en était délivré? Parce qu'autrement, ça devient une conversation qui ne va pas forcément être profitable. Regardez et voyez, nous l'avons dit. Or, la solitude se remarque rarement au premier abord chez ceux qui la vivent. Parce que la solitude, elle ne se voit pas toujours, elle se porte. Ouais, et elle se vit. Et elle se tait. Et c'est d'autant plus dramatique. Alors on va examiner par le détail les souffrances, les solitudes de Christ. Naissance solitaire. Vous voyez à quoi je veux faire allusion. Liée à une pauvreté extrême. Parce qu'on l'aura bien signifié à Joseph et à Marie qu'il n'y avait plus de place à l'hôtellerie. Solitude. Et puis voilà que je passe sur l'épisode de la vie de la jeunesse de Jésus à Nazareth, mais on en arrive à sa vie d'adulte et son service débute immédiatement dans l'isolement. Et ça, c'est selon la volonté de Dieu. Vous vous souvenez de cet épisode, cet isolement de 40 jours dans le désert? Oui. Avec tout ce qu'il peut y avoir de terrible, de cette condition affreuse d'être là, dans ce milieu. Si vous avez été dans le désert de Judée, vous verrez combien c'est désert. Hein. C'est jaune, à perte de vue, c'est poussiéreux. Et c'est assez hostile, et Jésus s'est trouvé par là. Jésus a toujours su, il a toujours connu l'issue finale de sa vie, autre solitude, la croix, naturellement. Et c'est la plus totale de toutes les solitudes à ce moment-là, parce qu'il ne restait pas grand monde autour de lui. Il avait réuni des foules, mais à cet endroit, à cet instant, que restait-il? Et je pense que ce qui a été le plus cruel pour lui, c'est que Dieu, son Père, semble même pas l'entendre. Il l'exprimera parmi les sept paroles de la croix, mais pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Ouais, des hommes, du ciel. Tout est vide. Je reviens à la croix brièvement. À la seule pensée de cette horrible perspective, là, il y a comme un voile d'angoisse qui est jeté sur Jésus, et à ce moment-là, il faudra bien affronter tout seul puisqu'il n'y a plus personne. Il y a quelquefois dans l'existence où nous n'avons pas le choix. Nous sommes le dos au mur et il faut faire face à la situation. Et c'est la condition. Parce que c'est un moment terrible, épouvantable. Mais je voudrais quand même ajouter ceci parce que nous avons déjà le retour et le bénéfice. Parce que si Jésus ne va pas à la croix, il n'y aura pas de salut pour les hommes et pour l'humanité. Et c'était payé par la solitude. Elle était absolument nécessaire. Et puis, solitaire, il s'est avancé vers la victoire aux apparences de défaite. Parce que quand on va et qu'on est sûr de gagner, comme aux élections, il n'y en a qu'un qui gagne, mais il faut y aller quand même avec une persuasion. Mais toujours est-il que il y avait tout pour finalement eh bien laisser à penser que c'était la défaite. Et nous voyons que qui aurait voulu le suivre en cela? Jésus avait bien parlé à ses disciples en disant, mais voilà, venez avec moi, et puis après je vous ferai asseoir, vous, les fils d'Israël, sur d'autres trônes, sur 12 trônes dans mon royaume. Mais il n'y avait personne qui le voulait à ce moment-là, parce qu'il n'avait pas compris le sens. Et pour le soutenir, Jésus, nous pouvons dire qu'il a véritablement reçu cet insigne privilège. Il était le seul aussi à savoir, et c'est ce qui le motivait, c'est ce qui le faisait avancer. Eh bien, il portait en lui la promesse de la résurrection, que quand bien même il avancerait seul, que le ciel et la terre l'abandonneraient, il y avait au fond de son cœur cette lueur, cette espérance. Finalement, qu'il y avait quelque chose qui s'appelait à bientôt la résurrection. Et je crois que ça, c'est véritablement peut-être une pensée que nous devons cultiver lorsque nous nous sentons seuls, lorsque nous sommes déprimés, lorsque nous sommes abandonnés, trahis, oni, de savoir que derrière cela, c'est une forme de mort. Et vous savez, c'est le principe même de l'évangile. C'est quand nous mourons que nous ressuscitons, et que nous revivons, que nous renaissons. C'est un principe de l'évangile. D'ailleurs, Jésus nous le montre d'une manière tellement forte et présente, omniprésente. Oui, il est parti. Personne n'aurait voulu finalement eh bien le suivre, mais il avait cela en lui. Quelques jours auparavant, dans le jardin de Gethsémané, qui est quand même l'image de la rédemption des souffrances morales, alors, dans la nuit la plus redoutable de son existence, il avait invité à ses disciples à faire une chose, à prier avec lui. Eux, ils s'étaient tout bonnement endormis à côté. C'est curieux, hein? Ouais. Il leur a dit, mais priez avec moi. L'heure est grave. C'est le moment où se joue la rédemption du monde, de l'humanité. C'est là où cet antique plan de Dieu qui avait commencé dans le jardin d'Éden, eh bien c'est maintenant qu'il va se réaliser. Mais tous ses compagnons auraient pu être véritablement transportés en disant, nous sommes à deux doigts de passer la frontière du royaume, du bonheur et de l'espérance. Et là, ils se sont tous endormis. C'est terrible, hein? Oui. Terrible quand on vient dans une réunion de prière qu'on dort. Mais je vois que vous ne dormez pas, vous êtes profondément concentrés. C'est pas pareil. Non, non, vous dormez pas quand vous venez en réunion de prière. Ça, j'en suis convaincu. Mais les disciples, eh bien, dans l'accablement. Alors, à ce moment-là, ils se sont endormis et Jésus, aussitôt, de les reprendre parce qu'il va leur dire, mais simplement, il va leur dire, vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Ouais. Que Dieu nous aide à être vigilants et à rester combatif, pas agressif, mais combatif dans l'esprit. Même si quelquefois nous nous sentons si peu. Dans nos églises, quelquefois nous nous sentons un si petit nombre. Mais c'est pas le petit ou le grand nombre qui va changer les choses. C'est la vigueur de notre foi et notre espérance et nos convictions intérieures. Et c'est ça ce qui va changer les choses. Et souvent nous nous accablons un petit peu comme les disciples en disant, mais regarde, nous avons fait ceci, nous avons prospecté, nous avons multiplié les moyens, il y en a des moyens aujourd'hui, et il y a si peu, Seigneur, dans un monde comme le nôtre. Mais il ne faut pas regarder à cela. Il faut regarder au Seigneur. Parce que c'est souvent avec les petits, enfin avec le peu, c'est souvent avec trois poissons et cinq pains qu'il donne la nourriture à une multitude. Et ça, nous avons besoin de changer de mentalité dans ce sens. Parce que nous sommes, et nous avons été formés, nous avons été éduqués, nous avons été préparés à, véritablement, eh bien, tout ce qui peut nous stimuler, mais par des choses extérieures. Et, or, c'est l'esprit en nous, c'est la parole de Dieu qui doit, vous savez, tous ceux qui ont fait œuvre, grande œuvre pour Dieu, je pense aux pionniers, je pense aux apôtres, je pense à tous ceux qui ouvrent une œuvre d'une manière ou d'une autre, souvent ils étaient tout seuls. Hein. Ouais. Et ils ont cru, tout simplement. Vous savez pourquoi ils ont cru? Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas tout seuls, en dépit des apparences. Ouais. Quelle faiblesse avons-nous lorsque nous nous endormons et que nous nous décourageons? Jésus a pourtant mené ce combat solitaire à Gethsémané, à tel point que, ce qui n'arrangeait pas les choses, il nous est dit qu'il a ressenti finalement une telle angoisse que il y a de la sueur mêlée de sang qui perlait sur son front. C'est terrible, hein? Alors c'est pour vous dire que c'est quand même un paroxysme de l'anxiété, de l'angoisse, hein? C'est terrible. Mais il a continué son combat sans eux. Ce que je voudrais quand même dire quelque part, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous pour faire son œuvre. Ce n'est que par condescendance, ce n'est qu'un privilège qu'il nous ait fait grâce pour nous associer. Parce que nous ne travaillons pas pour Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Il est avec nous, donc il est présent. Nuance. Et puis à chaque étape de sa vie, eh bien Jésus a été abandonné par beaucoup en chemin. Tous ces juifs hostiles n'ont jamais cessé de crier derrière lui des paroles de découragement à l'adresse de tous ceux qui étaient suivants de Jésus, invitant le peuple, tout simplement, à ne faire aucun cas de lui. Écoutez. Plusieurs d'entre eux, je prends le texte biblique, plusieurs d'entre eux disaient, et vous allez voir que les paroles ne sont pas très flatteuses, « Il a un démon, il est fou, mais pourquoi l'écoutez-vous » Eh oui, solitude. Ça, c'est une forme de solitude lorsqu'on dit du mal de vous, hein. Les injustices. On se sent vraiment seul. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Et le mépris. Jésus a connu le mépris, il a connu tout cela. On a souvent abandonné Jésus pour préférer les intérêts ou nos intérêts personnels. C'est pour ça qu'il y a des paraboles très ciblées, hein, dans la Bible. S'il n'aime son père, sa mère, etc., etc., et puis il y a d'autres choses comme ça, de ce genre, hein, naturellement. Les intérêts personnels, les intérêts passagers de la terre, et on l'a fait au détriment du message de vie éternelle que Jésus proclamait. Qu'est-ce que je dois choisir? Ah, peut-être que, en tant qu'homme, je suis beaucoup plus sécurisé quand il y a du bruit, quand il y a de l'agitation, quand je me cramponne à finalement à mes acquis, à ce que je sais, à ce que je tiens, parce que ça me rassure. Je suis tranquille. Mais faux problème, celui qui voudra gagner sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi, eh bien, la retrouvera. Et ça, ce sont des retournements, et Jésus a toujours parlé avec cette sagesse du contraste, pour nous montrer qu'il y a toujours un choix à faire, parce qu'on n'est jamais seul, finalement, quand on choisit Jésus. Même si on perd tout le reste. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme riche. Il est venu avec une question pathétique et tellement angoissée, et il a dit à Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répond ceci, cela, etc., etc. Puis au bout d'un certain temps, il te manque encore une chose, et peut-être qu'il manque quelque chose à quelqu'un ici. Un dernier pas à faire, un dernier geste, un dernier abandon, pour connaître véritablement, eh bien, ce que c'est que les délices de la présence de Dieu, parce que il y a quelque chose dans notre vie qui nous écartèle et nous sommes véritablement profondément malheureux parce que nous n'avons pas pris position. Alors, je vous y encourage. Vous verrez que quand même, après, on est beaucoup plus heureux. Alors voilà. On connaît tout cela. Regardez ces prétextes qui étaient donnés à l'appel du maître, à l'appel de Jésus, de l'invitation aux noces. Excuse-moi, celui-ci a son champ, celui-ci a son bœuf. Celui-là, eh bien, dira, eh bien, voilà, j'ai acquis ceci ou cela, et un autre, je viens de me marier, je ne peux pas aller. Voilà, toutes les excuses sont possibles. Hein. Vous connaissez la parabole des noces, naturellement. Vous allez quand même pas prétexter qu'il faut que vous alliez soigner votre bœuf pour pas suivre le Seigneur. Hein? Que vous ayez fait l'acquisition d'une maison, je comprends. Que vous veniez de vous marier et qu'on vous invite le lendemain à des noces d'un autre, ça fait beaucoup, hein, quand même. Hein? Mais quand même, voilà. Enfin bon, c'est un petit clin d'œil pour vous montrer que il y a quelque chose derrière tout cela. Il y a beaucoup de pertinence dans ce que Jésus est en train de nous présenter. Oui, préférant son père, préférant sa mère, sa femme, ses frères, sa propre famille. Et même la famille de Jésus l'a renié, vous savez, dans un premier temps. Vous retrouverez le verset, Marc, chapitre 3, verset 21, par exemple, je passe. Les Nazaréens qu'il connaissait bien l'ont chassé de leur ville. Et puis, les disciples, à un moment donné, se sont complètement délités, vous savez, ils se sont égrenés, ils ont disparu. Il y en a qu'un qui est resté. Celui qui est l'auteur de l'épître, pas l'épître, enfin des épîtres, mais aussi de l'évangile, Jean. Il est resté, il n'y en avait plus que deux à la croix. Et les autres, qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Parce qu'au moment crucial, eh bien, ils se sont tous enfuis loin de lui. Alors Judas, lui, attendait le moment, naturellement, et vous savez que c'était par intérêt, hein, on le connaît, hein, et il a trahi Jésus. Et même les plus loyaux à Jésus, finalement, n'allait pas tarder devant les événements de cette crucifixion à faire comme tout le monde, c'est-à-dire lui tourner le dos. Vous comprenez ce que Jésus a vécu? Lors du dernier repas partagé avec ses compagnons, une parole de l'Écriture occupait déjà toute sa pensée à Jésus. L'imminence du don suprême. Et il y avait une pensée particulière que j'aimerais rappeler parce qu'elle est au cœur même de ce problème de solitude. Elle occupait son esprit, elle l'obsédait probablement, celle-là, quand même, qui est importante, c'est une citation du prophète Zacharie. Écoutez, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées, vous serez dispersés chacun de son côté et... » vous me laisserez seul. Jésus le savait. Vous me laisserez seul. Vous savez, c'est terrible hein, quand on passe une épreuve, et ça nous est arrivé, ça vous est arrivé. Lorsqu'on se retrouve seul, où vous n'avez plus que quelques amis qui vous soutiennent, qui vous téléphonent encore, qui sont là pour demander de temps en temps de vos nouvelles. Alors ça ne se passe pas qu'à l'extérieur, ça peut se passer aussi dans l'église. Je crois qu'il y a un défaut. Et c'est difficile. Je dirais qu'il y a une double solitude, parce que quand on est en couple, on a encore au moins un mari, une femme, et on peut encore se dire des choses. Mais moi je pense, et je voudrais vous le dire parce que je ressens une véritable, avec Myriam, nous ressentons toujours une profonde tristesse pour ceux, quel que soit leur âge, grand ou petit, vieillard, qui vivent la solitude, qui vivent seuls. Parce que on peut vivre seul et s'en contenter quand tout va bien. Mais quand l'épreuve est là, quand la maladie est là, quand il y a des choses qui sont terribles, j'ai souvent partagé des moments avec ces gens et ils m'ont dit, mais, et quelquefois nous sommes obligés de faire office un peu de stimulateur et de dire, mais tu es seul, tu manges? Non, je mange plus. C'est terrible ça. Voilà. Je ne sors plus. J'ai fermé ma maison. Tout est clos. Je reste à l'intérieur de moi-même. Et on est obligé de stimuler. Et souvent, je le dis, les gens me prennent pour un médecin, mais je ne suis pas. Je dis, mais il faut manger, il faut dormir, il faut faire certaines choses, parce qu'autrement, c'est le sommeil après. Il y a un sommeil qui peut nous emmener très très loin, parce que on s'enfonce, finalement, dans notre misère. Ouais. Alors, c'est difficile pour avoir passé des moments difficiles dans la maladie. Heureusement que j'avais mon épouse pour me faire à manger. Parce que je n'aurais pas mangé. Ah, vraiment, hein. Parce que vous savez comment ça se passe. Ça ne passe pas. C'est bloqué, doublement bloqué. Et vous avez une épouse qui vous force. Voilà. Pour manger. Il faut que tu manges. Ça va? Ouais. Et c'est bien. Alors, pensez à ceux qui sont tout seuls à vivre une épreuve. Qui sont plus que tout seuls au monde. C'est terrible. C'est une dévastation. C'est terrible. Alors pensons à eux et prions pour eux. Ouais. C'est comme ça la vie, naturellement. Alors voilà, vous me laisserez seul. Ils ont tous pris la fuite. Cependant, nous avons aussi la contrepartie, parce que dans Jean 16, si je tourne une page de ma Bible, qu'est-ce qu'il nous est dit, Jean 16, et au verset 32 et 33, je le lis à votre attention, il est dit ceci. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et écoutez bien la suite, parce que c'est réjouissant. Je vous le dis en vérité, afin que votre paix soit en moi. Vous aurez aussi des tribulations, y compris la solitude dans le monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu avant vous, pour que vous soyez vainqueurs avec moi de toutes ces misères et de toutes ces tristesses. Brièvement, avant de terminer, j'aimerais faire l'exposé, bref, de la solitude qui a plusieurs visages. Oui, elle n'est pas la même pour tout le monde, naturellement. Je vous parlerai sommairement de la solitude qui est un facteur, et là dans le sens positif, d'apaisement et de repos. Je vous parlerai également de la solitude choisie ou subie. Parce que quelquefois, on n'a pas le choix. Quand on est monté dans le train, il faut aller jusqu'au bout, vous comprenez? Il y a des solitudes, des responsabilités de la vie. Il y a des solitudes qui sont des chemins portes d'espérance. Et là, c'est quelque chose de formidable. Jésus avait cette solitude avec cette porte d'espérance. Vous savez, la porte d'accord, comme nous dit le prophète Osée. Il dresse pour moi une porte d'espérance. Donc, c'est pas du tout négatif. Il y a les solitudes qui sont liées au rejet, ou au mépris des autres, on en a touché deux mots. Il y a des solitudes de la séparation dans le deuil. Il y a des solitudes du célibat, et ça on ne peut pas le sous-estimer. C'est très difficile à vivre. On n'est pas fait pour vivre seul. Moi je bénis le Seigneur qu'il ait donné l'Église à des hommes et des femmes, comme à nous-mêmes, de trouver une communauté fraternelle où des hommes, des femmes, prient les uns pour les autres, s'aiment, partagent tant de choses. Alors gardons la qualité de cette relation entre nous. Ne laissons personne la détruire ou la souiller ou la salir. Il faut se dépendre. la contaminer, la vicier, parce que c'est quelque chose de précieux. Et je le vois bien parmi vous, je sais qu'il y a des gens qui sont seuls, et qui me disent « Heureusement que nous avons l'Église. » Oui. Et la qualité de l'Église, eh bien, c'est nous qui la faisons les uns et les autres. Parce que le Seigneur est là, et il veut bénir son peuple. Ceux qu'il a appelés, il veut les bénir par les uns et par les autres. C'est-à-dire entre nous. Oui. Il y a la solitude face à la mort. Parce qu'il faut quand même qu'on se fasse pas d'illusions. Le jour où on rendra notre dernier souffle, on sera vraiment seul. Hein, même s'il y a tout l'amour autour de nous, mais on sera vraiment seul. C'est nous qui passerons, personnellement. Et puis, je voudrais vous parler également de la solitude du couple, où des couples vivent en célibataire. Ça, c'est encore un autre problème. La solitude dans le couple, mais où chacun est quand même seul, et au féminin, au masculin, naturellement. Et puis, il y a la solitude qui est à la communion des souffrances de Christ. Ce que nous avons dit il y a un instant. Oui. Il faut savoir, rebondir. Il faut savoir exploiter avec l'intelligence de l'esprit que Dieu permet des circonstances et des mises à l'écart, parfois, pour des raisons tout à fait particulières. Et là, nous allons vivre et nous allons connaître un peu plus près le Seigneur. Et nous allons voir combien il est bon, combien il est doux, combien il est merveilleux, notre Dieu. Et de pleurs, il va le transformer en paix profonde, en allégresse, en joie. Et là, à la suite de nos cris, eh bien, nous allons chanter des cantiques à sa gloire. Il y a également des solitudes qui font tant de choses qu'après, nous sommes aptes à comprendre les autres et à les aider. Je suis passé par là, je te comprends. Et vous savez, j'irais même dire que ce n'est pas avec des mots, c'est même pas avec des versets bibliques, c'est pas en débitant des chapitres et des chapitres que l'on va peut-être trouver finalement eh bien la solution, parce que quelquefois quand on est vraiment malade de ce genre de choses, on n'écoute plus. Mais quelquefois c'est à travers un geste, à travers un regard, à travers un sourire, que là les choses se font. Ouais, ce sont toutes les techniques de l'esprit, vous comprenez, pas les techniques des hommes, pas les méthodes. C'est ça ce qui est important. Alors, brièvement, quand je dis que je suis bref, ça peut être très long. Hein. Mais bon, vous n'êtes pas venu pour rien. Et puis d'abord, je vous dirais, avec le beau temps qu'il fait dehors, vaut mieux que vous soyez à l'abri. Bon, je voulais vous parler d'abord, quelque chose de positif, de la solitude bienfaitrice qui apporte le calme et la sérénité dans un monde de fous. Excusez-moi, hein. Non, j'étais excessif. Endiablé, trépidant. Voilà. C'est cette solitude qui nous repose de nos stress et de toutes nos tensions. Et elle est réparatrice. Quelquefois, j'ai envie de le dire à certains, courez moins vite. Parce que vous zappez des choses. Vous êtes dans le TGV, vous voyez rien du tout du paysage. Mais le Seigneur voudrait vous dire, eh bien, regarde un petit peu tous les côtés, mais c'est beau, hein. Parce qu'il n'y a pas que des choses vilaines. C'est beau. Vous savez que Jésus y a souvent recouru à cette solitude bienfaitrice pour se délasser de ses bains de foule, de toutes ces pressions qui étaient quelquefois toxiques. Et quelquefois, nous sommes aussi dans un bain toxique de par la société. Alors elle nous repose du bruit et des activités, de l'activisme particulièrement. Elle invite à la réflexion, à la décision avec le recul nécessaire pour bien choisir. Et nous avons des grands choix à faire. Et quelquefois il faut se poser. Vous connaissez dans l'évangile de Marc, il nous est dit que Jésus, après avoir pris ses disciples qui revenaient d'une mission extraordinaire, formidable, un réveil, comme il n'y en a pas, et leur a dit, bien, venez à l'écart, et puis vous allez vous manger, vous allez vous reposer un petit peu. Ils en avaient besoin. Et quelquefois, nous en avons besoin. Il faut savoir s'arrêter. Parce que quand la mécanique est partie, on ne peut plus vivre sans ce rythme. Et à un moment donné, quand ça casse bien. Et ça m'est arrivé de me retrouver à l'hôpital, pas moi, mais voilà, ceux qui sont à l'hôpital, pour être réparés. Et c'est plus dur de remonter, hein. Alors il faut quelquefois ces solitudes, elles sont bonnes. Et puis il y a une autre solitude qui est liée au tempérament. Elle est solitaire. Les ermites. Moi, je ne contacte pas les autres parce que je veux être tranquille. Bon, remarquez, vous avez la possibilité, hein, dans le monde dans lequel vous, il y a tout ce qu'il faut, hein. Mais certaines personnes peuvent vivre dans la plus dense des sociétés et s'y trouver complètement, finalement, isolé, même au milieu de la foule. C'est quand même assez curieux que nous vivons dans un monde un petit peu concentrationnaire et que nous nous saluons même pas les uns les autres. Ah, moi, j'ai trouvé une chose, quelque chose d'extraordinaire. Quand on va sur les chemins douaniers ou quand on va en montagne, quand on est isolé, on se salue tous. Je connais pas, moi. Mais on se dit bonjour. C'est formidable, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, quand je suis avenue de la République à Saint-Nazaire, je salue tout le monde. Non, c'est pas vrai. Non, je voudrais pas vous tromper quand même. Parce que là, autrement, aussi bon me présenter aux élections. Bon. C'est passé, c'est fini. Il n'y a plus de place. Alors, voilà. L'indifférence, l'anonymat qui tue. Personne ne remarque ces gens, ne font attention à ces personnes et à ce qu'elles sont, à ce qu'elles aiment. Leur joie ou leur chagrin, eh bien, est complètement passé inaperçu. C'est terrible, cela. Les maisons de retraite, vous connaissez? C'est terrible. Ah ouais, on fait exactement ce que Jésus dénonçait aux pharisiens quand il était question de payer le, comment on appelle ça là, qui peut m'aider. Il donnait une somme à l'église et l'église se chargeait de mettre les vieux, hein, pas beau, et dans une maison pour s'en débarrasser. Alors il disait, j'ai donné à l'église, ça suffit. Pensait que les autres, ils se mettaient ça dans la poche et puis le pauvre vieillard, ben, il restait tout simplement tout seul. Je cherche le mot, mais ça va peut-être me revenir à la fin du culte. C'est pas grave. Hein. Ouais. Pesante solitude de notre monde. Ouais. Comme si les gens n'existaient pas. Et la tristesse de notre monde est quelque chose d'implacable. On en parle, on fait des lois, on fait toutes sortes de choses. Alors on s'intéresse qu'à ceux qui sont intéressants, à ceux qui se rendent intéressants. Alors ceux-là, ils vont avoir naturellement l'attention. Mais les autres, ceux qui ne disent rien, les silencieux, ça passe. Je parle et je voudrais quand même vous donner une notion, c'est qu'il y a des choses qui sont faites. Mais moi, je voudrais le mettre sur le plan spirituel. Parce que nous sommes tous à l'école ce matin pour pouvoir avoir un regard, peut-être un petit peu plus ouvert sur les solitudes des autres. Alors il y a aussi la solitude des responsabilités ou du pouvoir. Oui. Celle des décideurs. Celle de ceux qui ont sur les épaules des choix énormes qu'ils doivent endosser où revient le dernier choix, la décision. Avec tout ce que cela peut comporter. La responsabilité et la solitude des puissants. De ceux qui sont au pouvoir. La solitude des parents devant parfois les situations complexes et perplexes que posent les enfants. La solitude pastorale, parce qu'on ne peut pas le partager. Dans nos églises, il y a des conseils spirituels, alors on partage. Mais il y a des choses, certainement, que je ne peux pas partager avec vous. Je le dis, c'est entre nous deux, parce que je ne peux pas. Parce que je ne dois pas le faire aussi. Dans certains cas, il faut que ça reste entre nous et le Seigneur, ou entre les personnes concernées, et dans un but de pouvoir permettre à la personne, puisque c'est resté dans un secret, de pouvoir se relever. Parce que quand tout le monde le sait, c'est fini. Et quelle misère, lorsque les histoires de l'Église ou les histoires des uns et des autres sont mises publiquement, sous le couvert pudique de dire on va prier pour lui, on va prier pour elle. Ben, je peux vous dire que moi, c'est pas ma politique, c'est pas ma façon de faire. Alors il y a des choses qu'on peut partager naturellement, mais il y a des choses non, parce que c'est Dieu qui apportera la véritable solution. Et de permettre à quelqu'un qui est tombé de pouvoir repartir, vous comprenez? Mais quand tout le monde sait qu'il est tombé, ou qu'il y a eu ceci et cela dans sa vie, ben, il va avoir du mal à repartir. Moïse a connu la solitude, vous savez? Quand il a laissé Josué derrière lui et qu'il est monté sur le mont Sinaï, dans son face-à-face avec Dieu, il lui dira, reste là, Josué, et attends. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne. Il est parvenu avec rien, hein, c'est vrai. Je pense à Élie au Carmel, vous connaissez là aussi cette histoire. Élie était tellement persuadé qu'il n'était plus tout seul au monde devant la catastrophe qui s'était passée. Parce que Jézabel était en train de vouloir le tuer. Et il dira à un moment donné, dans un cri, il dira, mais Seigneur, je suis resté moi seul. Moi seul, je suis resté. Je suis le seul croyant en Israël. Dieu va lui dire, mais mon pauvre Élie, tu sais que tu ne le sais pas parce que tu ne le vois pas. Mais tu devrais le croire sans le voir. C'est que moi j'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alors je te le dis, ça peut te réconforter, t'es pas tout seul. Et vous savez, quand on vit des souffrances et des difficultés, on se croit vraiment tout seul. Ouais, on se croit tout seul. On se dit, mais il y a qu'à moi que ça arrive. Mais non, il n'y a pas qu'à vous. Mais loin de penser cela, il n'y a pas que vous. C'est réconfortant finalement de savoir qu'on n'est jamais tout seul. Et puis je pense à Ésaïe, Jérémie, qui étaient des hommes méprisés, haïs, considérés comme des renégats, comme des collaborateurs. Je pense à Jean-Baptiste, l'homme, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui avait vu des foules autour de lui et qui va être enchaîné dans la prison d'Hérode. Et à un moment donné, il aura un grand doute, il dira, mais en ce qui concerne le Messie, est-ce qu'il faut en attendre un autre ou est-ce que c'est celui-ci? C'était la solitude qu'il faisait parler comme ça. Voilà. Et puis, je finis. Il y a des solitudes qui préparent la réalisation de grands plans humains ou divins. Et ça, c'est inéluctable, il faut passer par là. Hein. Moïse, je pense, on en a parlé. Vous savez, lui, il a fait quand même 40 ans de solitude à garder les chèvres. Hein. Oh, si vous avez une vocation de berger, vous pouvez y aller. Hein. 40 ans, vous rendez compte, c'est long. Hein. Puis il faisait chaud dans son désert. Hein. L'apôtre Paul, mis à l'écart en Arabie, selon Galates, chapitre 1er, voilà, pendant 3 ans, avant de remplir son ministère, et Dieu lui dit, mais tu m'as déjà appelé, qu'est-ce que tu voudrais faire? J'ai pas de temps à perdre. Mais, vous savez, l'apôtre Paul a passé sa vie à perdre son temps. Alors, je m'explique, hein. Parce que, 3 ans en Arabie, combien d'années en prison? On en connaît 3 à Césarée, et 3 à Rome. C'est sûr qu'il faisait des beaux voyages, qui étaient quand même pas, il y avait des risques, hein. Mais pendant ce temps-là, il n'a pas perdu son temps, il a écrit les épîtres. 13 épîtres. Venant de lui. C'est extraordinaire. Quelquefois on dit, mais Seigneur, je ne fais rien. Je suis seul. Je perds mon temps. Mais non, on ne perd pas son temps. Le Seigneur est avec nous et c'est lui qui nous inspire des choses que nous ne pouvons même peut-être pas penser. Jésus a connu sans exception tous les aspects de la solitude, celle des déserts, celle des rivages déshérités, de la montagne, le silence du crépuscule, ou tout simplement le silence de l'aurore dans le jeûne et la prière. Écoutez ce que nous dit Marc, chapitre 1er. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Même dans ce lieu désert, il n'était pas seul, il y avait le Seigneur avec lui puisqu'il le priait. Solitaire des hommes, mais Dieu avec lui. Et il était tellement imprégné, Jésus, de ce sentiment, finalement, d'amour divin. Il dira cette parabole, mais il le dira aux hommes. Sentant sa solitude, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Il y avait quelqu'un qui était en prison et qui était malade. C'était Jésus. On pouvait le dire que de cette manière, s'il prend le type de notre humanité. Mais finalement, eh bien, il y avait quelque chose qu'il faisait vivre dans cet isolement, dans ces prisons. C'est que la grâce de Dieu est avec lui. Abandonné de tous dans la mort, encore suspendu à la croix, il écrit, tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis le début en Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait de loin. Ne soyons pas des chrétiens de loin, mais des chrétiens de près avec des yeux qui sont les yeux de Dieu, des mains, qui sont les mains du Seigneur, avec un cœur qui ressemble au cœur du Seigneur. Restez seul. Oui, restez seul. La conclusion pourrait être la suivante, si vous me le permettez. Les solitudes de Christ nous guérissent de toutes nos solitudes. Oui. Dans le livre des Hébreux, il est dit cette parole. Alors, Hébreux, tout simplement. Au chapitre 4 et au verset 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, à nos solitudes, à nos misères morales. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a connu la souffrance de la solitude, Jésus, mais il n'a pas péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Vous qui passez peut-être par un moment de solitude actuellement, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Tout simplement le dire et le redire. Il a été seul pour que nous ne soyons jamais tout seuls, que nous le sachions. Et dans nos solitudes, Jésus nous dit « Je viendrai à vous et je serai avec vous » et je reprends tout simplement cette parole que nous avons lue il y a un instant au départ « Et moi je prierai le Père ». Nous sommes au bénéfice de la prière que Jésus a fait monter pour tous les solitaires et tous ceux qui souffrent de solitude. Et il vous donnera un autre consolateur. Moi je ne serai plus là visiblement, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, celui qui apporte le soutien. Voilà. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, il est là. Ne disons pas « je vais à l'église pour rencontrer Dieu », mais le Seigneur est avec vous déjà avant que vous soyez sur partout. Je ne vais pas à l'église pour rencontrer Dieu, mais Dieu est déjà là, il est en permanence. Et il n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. Croyons-le. Vous savez, ça va changer toute notre façon de voir les choses et de penser les choses. L'esprit de vérité, parce que Dieu ne peut pas mentir, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, il demeure en vous, il sera avec vous. Alors, consolons-nous. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Ça va? Vous n'allez pas ressortir traumatisé, j'espère. Réconforté. Seigneur, tu es avec moi et je bénis ton nom. Tu es merveilleux, mon Dieu. Parce que tu me délivres et tu me guéris de toutes mes solitudes et de tout ce genre de choses. Alors on va prier quelques instants et je vous remercie pour votre écoute. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole, il y a toutes les solutions, tous les remèdes, toutes les guérisons possibles Seigneur, aux maux Seigneur de cette humanité. Mais Seigneur, tu n'as pas fait que de nous donner des paroles écrites. Mais tu nous as donné un exemple vivant à travers la personne de Christ. Parce que Seigneur, en effet, ce n'est pas une compilation, Seigneur, de techniques ou de recettes ou de manières de faire ou d'utiliser, Seigneur, ceci ou cela. Mais nous savons, Seigneur, que la parole est devenue vivante. Et elle a été, en effet, Père éternel, Seigneur, cette parole s'est incarnée dans la personne de Jésus. Et lui, il nous parle de la solitude. Il nous parle de sa solitude. Et il est venu vers les hommes pour leur dire qu'ils ne sont jamais seuls. Lorsque nous pensons à Christ, lorsque nous vivons en Christ, et que nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, donc je ne suis plus seul. Tu bénis mes frères et mes sœurs. Tu connais, Seigneur, les épreuves de certains. Tu connais les solitudes, Seigneur, de d'autres. Tu connais, Père éternel, l'éloignement, l'isolement, Seigneur, encore de d'autres. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons, Père, que tu es là. Là où il y a, dans le cœur d'un homme, eh bien, une véritable authentique confiance, c'est-à-dire la foi dans le Christ ressuscité. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.